Rencontre avec une conteuse en campagne, Laila Darwish. Laila Darwish, conteuse d'origine libanaise, fille du conteur Jihad Darwish. Elle était l'une des invitées du festival Conteurs en Campagne et elle est passée nous rendre visite dans les studios de PFM. C'était la semaine dernière.
Je raconte des contes, donc surtout du Moyen-Orient. Des contes qui m'ont été transmis par mon père, qui est aussi conteur, et aussi par ma grand-mère, puisqu'elle aussi était conteuse, au Liban par contre. Mon parcours, on va dire qu'avant, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans le tourisme, je me suis intéressée aux langues orientales. Et puis un jour, je me suis dit que j'avais peut-être envie de raconter moi aussi. Voilà, donc j'ai commencé à raconter, mais en fait ça fait pas si longtemps que ça, ça doit faire à peu près 5 ans. Et voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc maintenant, oui, je suis conteuse. Je peux dire je suis conteuse. Oui.
Alors racontez-nous justement votre grand-mère. Comment est-ce qu'elle racontait ? C'était plutôt dans un cadre familial ou déjà c'était une actrice ou comment ça se passait ?
Non, alors voilà, au Liban, pour les femmes, c'était surtout dans le cadre familial. Quoi raconter ? Donc elle racontait à ses enfants, à ses petits-enfants, aux voisins, aux voisines, aux invités qui venaient là. Parfois, ça faisait un peu comme des réunions pendant la journée, pendant qu'on préparait à manger ou pendant qu'on préparait les provisions. Les voisins venaient, tout le monde travaillait ensemble et puis là, ça racontait des histoires. Voilà, donc elle était ce genre de conteuse. Il y avait aussi des conteurs qui racontaient en public, mais là, c'était surtout des hommes et qui racontaient plutôt dans les cafés. Et c'était des histoires qui étaient beaucoup plus longues. Ils racontaient surtout des épopées, qui étaient un peu comme les feuilletons qu'on a aujourd'hui à la télé. Hein, c'est-à-dire qu'ils racontaient des épisodes chaque jour. Et le public suivait. Voilà.
Et est-ce que votre grand-mère racontait des contes plutôt pour les enfants, pour toute la famille ? Et puis, est-ce que c'était aussi un côté un peu moralisateur ? Est-ce qu'il y avait ce genre d'idée, de message à faire passer dedans ou pas trop ?
J'aime pas cette idée de morale dans le conte. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque part une morale dans le conte, mais moi, c'est pas ce que je cherche à imposer. C'est pas le plus important pour moi. De ce qu'elle racontait, elle, honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup, j'avais à peu près 5 ans. Hein. Mais elle racontait des histoires à tout le monde, pour les enfants et pour les adultes, il n'y a pas de différence. Les contes sont pour tout le monde. Quand on raconte une histoire ou quand on écoute une histoire, on n'entend pas tous la même chose. On prend chacun quelque chose dans cette histoire. Parfois, l'histoire va être comme une bombe dans notre tête et ça va nous révéler quelque chose. Parfois, cette histoire-là ne va rien nous apprendre. Ou peut-être qu'elle va nous apprendre quelque chose, mais au bout de plusieurs années.
Alors vous-même, est-ce que vous avez grandi au Liban ou en France ?
J'ai grandi au Liban jusqà l'âge de 5-6 ans.
Et comment vous êtes arrivée là en France ?
Par avion.
À quelle occasion ?
Non, ma mère est française.
D'accord.
Et puis avec la guerre, finalement, on est venu s'installer en France.
D'accord.
Tout simplement.
Alors, on va parler justement de l'importance dans la vie sociale du conte au Liban. Hein, vous parliez un petit peu des hommes qui racontent dans les cafés, puis les femmes plutôt dans le cercle familial et des amis. Mais quelle importance ça a là-bas ? Est-ce que j'imagine que c'est beaucoup plus développé, la culture orale, que ça ne peut l'être ici
Alors,
en
Occident. S'est quand même pas mal perdu. Notamment, je pense, à cause de la guerre aussi. Aussi à cause de la télé, qui a pris beaucoup de place, mais enfin, dans toutes les civilisations, finalement. Et maintenant, c'est en train de reprendre. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait par des conteurs, par des associations, depuis quelques années, pour reformer des personnes pour raconter, donc pour reformer des conteurs. Il commence à y avoir aussi quelques festivals intéressants. Tout ça, c'était perdu avant. Hein. À une période, on a arrêté de raconter. Même, je pense qu'on a oublié qu'il y avait des contes. Et comme bien souvent, on n'ose plus demander aux vieilles personnes qui, elles, ont la mémoire, on n'ose plus leur redemander ce genre de choses. Alors qu'eux, ils ont ça dans leur mémoire. Voilà, maintenant, ça revient. C'est-à-dire que le conte redevient quelque chose d'intéressant. Parce qu'à un moment, au Liban, quand on disait « je suis conteur » ou « je suis conteuse », on riait presque. Voilà, quand on entendait ça, on disait « mais ça, c'est pas un métier ». Qu'est-ce que vous faites comme métier? Comment vous gagnez votre vie? Voilà. Maintenant, c'est quand même un peu plus sérieux, on va dire. Les gens commencent à voir l'importance, à revoir l'importance du compte, effectivement. Parce que le compte, c'est quelque chose d'universel et finalement, tout le monde en a besoin. Et voilà, les gens commencent à ressentir ce besoin qu'ils avaient perdu.
Comment ça s'est passé la décision de devenir conteuse à plein temps et puis de quelque part marcher dans les traces de votre père?
Oui. Ça s'est fait très très lentement. Moi j'ai toujours écouté des histoires depuis que je suis née quasiment. Donc j'ai toujours été baignée là-dedans. Pour moi, entendre des histoires c'est quelque chose de normal. Mais c'est vrai qu'avant j'ai fait d'autres choses comme travailler dans le tourisme. Mais finalement ça se rapportait quand même à raconter des histoires. Voilà.
Donc... Ouais, ils disent des histoires dans le tourisme.
Voilà, en faisant des guidages, mm-hmm. en racontant l'histoire de la ville, etc. Donc finalement, c'était déjà un peu ça. Mais il manquait quand même l'approche de la scène. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut affronter. C'est pas évident d'affronter un public. Et ça, je l'ai fait en dansant dans une troupe de danse traditionnelle arabe. Voilà. Là, j'ai appris à appréhender à la scène, à rencontrer le public. Et je crois que c'est ces deux choses-là qui m'ont permis un jour de dire bah, « Oui, finalement, je sens que je peux et que j'ai envie d'être sur scène et de raconter des choses. » Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai fait une proposition à mon père. Je lui ai dit bah, « J'aimerais bien faire un spectacle avec toi. » Et lui, il pensait au début que je voulais danser et lui raconter. Je lui ai dit « Non, j'ai envie de raconter. » Voilà, donc j'ai commencé comme ça avec lui.
Est-ce que dans la manière dont vous appréhendez aujourd'hui la scène, il y a encore des éléments de danse qui viennent s'incorporer? Et puis, est-ce qu'il y a de la musique? Comment ça se passe un peu, un spectacle de Layla Darwish?
Alors non, justement. Justement, au début, je voulais vraiment éviter d'utiliser mon corps. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il n'y ait que la voix. C'était même trop, c'est-à-dire que je voulais même m'effacer et qu'il n'y ait que la voix. Ça, c'était vraiment au début. Et maintenant que je me sens un peu plus à l'aise avec ma voix et sur la scène, bah, je commence à avoir envie justement de retrouver des mouvements de danse et d'incorporer ça, c'est-à-dire le travail du corps. Pour ce qui est de la musique, il m'arrive parfois d'être accompagnée par un musicien, mais c'est finalement assez rare. Je n'ai pas encore fait un vrai travail avec un musicien. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un musicien qui vient m'accompagner.
Alors on va parler du spectacle que vous présentez dans le cadre de Conteur en campagne. Mm-hmm. Ça s'appelle le voyage de Messaouda. Alors qu'est-ce que ça raconte?
Alors le voyage de Messaouda, ça raconte l'histoire d'une femme qui a toujours rêvé de voyager et qui finalement va attendre presque le bout de sa vie pour faire ce voyage. L'histoire, c'est que elle sait faire du pain, elle sait faire du bon pain. Donc tous les matins, elle prépare sa pâte à pain. Et ce jour-là, justement, elle part se promener et en attendant que sa pâte lève. Et comme ça, elle va finalement prendre un bateau et partir faire un voyage jusqu'à Beyrouth, rencontrer des gens, avoir des histoires et puis revenir. Voilà. En fait, c'est une histoire où on perd un peu la notion du temps parce qu'elle va partir pendant plusieurs mois. Et à la fin, elle va revenir et sa pâte à pain est prête, elle l'attend, elle est prête à être cuite. Et pendant ces voyages-là, elle va raconter des histoires, elle va rencontrer d'autres personnages.
C'est un conte philosophique. On parlait de morale tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une morale ou une idée derrière ce conte?
Oui. Ce conte parle du temps qui passe, de prendre son temps. De savoir être patient et d'apprécier chaque moment dans la vie. Très important. Parce qu'on est dans une société où on court beaucoup, finalement, et on passe à côté de beaucoup de choses.
On est toujours avec Layla Darwish et on lui a demandé de nous conter un extrait de ce spectacle, Le Voyage de Messaouda.
Donc c'est une petite histoire que Messaouda, donc le personnage de mon conte, va raconter à une jeune femme qui n'a pas d'enfant et qui va mentir à son mari. Elle va dire à son mari qu'elle a un enfant pour gagner du temps. Voilà, donc Masrouda lui raconte cette histoire pour lui dire pourquoi il faut gagner du temps. Voilà. Un jour, l'âne de Jaha est mort. Et Jaha n'avait pas assez d'argent pour en acheter un autre. Mais quand même, il est parti au marché. Et en arrivant sur la grande place du marché, il y avait du monde. Il a regardé autour de lui et il a vu qu'il y avait un âne qui était attaché un peu à l'écart. Alors il s'est approché discrètement de l'âne et il a regardé si personne ne faisait attention à lui. Il a défait la bride de l'âne, il a grimpé sur son dos puis il a commencé à partir. Mais le propriétaire de l'âne l'a vu, il l'a rattrapé. Il lui a dit « Mais Jaha, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de voler mon âne ?» Alors il l'a attrapé et il l'a emmené chez le juge. Le juge a dit à Jaha « Mais enfin, Jaha, tu le sais, quand on vole un âne dans cette ville, la punition, c'est la prison. » Jaha a dit « Mais cet âne, je ne voulais pas le voler. Cet âne, en réalité, c'est mon frère. Je le cherche depuis plusieurs jours et là, je suis passée devant lui, j'ai regardé ses yeux, je l'ai reconnu, c'est mon frère. Moi, je ne voulais pas le voler. Si je l'ai pris avec moi, c'était pour lui réapprendre à parler. » Le juge lui dit « Mais Jaha, tu te moques de moi? Tu veux apprendre à parler à un âne ?» Jaha lui dit « mais non, je t'assure, c'est pas un âne, c'est mon frère, je l'ai reconnu. » Le juge lui dit « D'accord. Supposons que ce soit ton frère. Combien de temps il te faut pour lui apprendre à parler ?» Jaha dit « Bah, il me faut... Allez, 7 ans. 7 ans, c'est bien. » Je lui ai dit « Très bien. Alors je te laisse 7 ans. Et si dans 7 ans, ton âne ne sait toujours pas parler, je te jette en prison. » Et Jaha était content. Il est rentré avec l'âne chez lui. Et il a tout raconté à sa femme. Sa femme lui dit « Mais mon mari, t'es complètement fou. Depuis quand les ânes parlent ?» Jaha dit « Tu sais, ma femme, je sais très bien que les ânes ne parlent pas. Mais 7 ans, c'est long. Et en 7 ans, l'âne peut mourir. Le juge peut mourir. Moi-même, je peux mourir. Alors tu sais, d'ici là, moi, j'ai tout mon temps. »
Vous êtes l'invité cette année de ce festival Conteurs en campagne, un festival qui essaie d'amener des spectacles à des endroits où il n'y en a pas, où il n'y en a plus peut-être, dans des petites communes de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors comment vous voyez un petit peu cette démarche du festival ?
Je trouve que cette démarche est très importante parce qu'il est important que tout le monde profite de la culture. Voilà, c'est pas parce qu'on habite dans un petit village un peu reculé qu'on n'a pas le droit à avoir des spectacles. Et justement, la démarche de Conteurs en campagne, c'est ça, c'est amener la culture dans les endroits où peut-être on n'a pas l'occasion de voir des spectacles. Des spectacles de qualité, ça, à chaque fois, on le répète. On n'a pas besoin de vivre dans une grande ville, de payer cher pour avoir un spectacle de qualité. Et alors, ce qui est bien, effectivement, dans ce genre de festival, c'est que pour nous, les conteurs, on rencontre vraiment les gens. C'est-à-dire que, par exemple, on est logé chez les gens, on est logé dans des gîtes, on n'est pas dans des hôtels anonymes, on ne rencontre personne. Là, on rencontre vraiment les gens, les gens de la ville, les gens du pays.
C'est votre première participation à ce festival ou...
Ah oui, absolument. Oui. Ouais.
Alors, on a aussi dans les studios donc, Tony Avar, qui est un peu le coordinateur hein, de ce festival, on peut dire ça comme ça ?
On peut dire ça comme ça.
Et, donc un mot sur la démarche, on en parlait de ce festival, quelque chose à rajouter là-dessus ?
Je rajouterais simplement que ce festival-là, il a été créé par une fédération qui s'appelle la Fédération des foyers ruraux, qui est une fédération d'éducation populaire et permanente qui a comme objectif l'animation et le développement du milieu rural. Et que ce festival-là, il est né il y a presque 20 ans, hein, on fêtera les 20 ans l'année prochaine, à l'initiative de bénévoles. Il est évidemment, je vous l'avais rappelé, je suis coordinateur de ce festival, mais il serait impossible d'organiser un festival sur près de 60 communes rurales de toute la région Nord-Pas-de-Calais, hein, parce qu'encore une fois, on n'est pas que sur la région d'Arras, on y est beaucoup, mais on est sur toute la région. Ça serait impossible de l'organiser si dans chaque village, il n'y avait pas des associations, s'il n'y avait pas aussi un comité de pilotage avec des bénévoles, des compteurs amateurs qui organisaient toute l'année ce festival-là. On ne pourrait pas... une personne seule, évidemment, pourrait pas organiser ce festival-là. Donc, c'est très important de voilà, spécifier l'importance de la démarche, du bénévolat, de la formation aussi, de la citoyenneté de la Fédération des foyers ruraux.
Alors, depuis quelques années, on sait, notamment pour tout ce qui est association et mouvement d'éducation populaire, c'est très difficile, subventions en baisse, etc. Il me semble qu'il y a quelques années, les foyers ruraux 59-62 avaient justement un petit peu appelé à l'aide. Alors, où en est la situation des foyers ruraux 59-62 en 2011?
Bah, si vous voulez, la situation de la Fédération des foyers ruraux, alors je vais dire, est plutôt bonne par rapport à la situation actuelle, je le mets des guillemets évidemment, hein. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a un certain nombre d'actions que nous menons sur le milieu rural, donc il y a aussi Rural Livre, hein, par exemple, qui a un prix littéraire pour ados et pré-ados, qui fonctionne vraiment très bien sur le Nord et le Pas-de-Calais, qui est aussi une action reconnue, hein, outre donc Compteur en campagne, et je pense que notre spécificité, celle d'agir dans les petits villages, en milieu rural, fait qu'on est reconnu pour ça, hein, et je pense que ça fait que notre situation n'est pas si mauvaise. Maintenant, on peut, comme on est aussi face à une crise du bénévolat, hein, comme d'autres fédérations, il me semble, comme le disait Leïla, on est aussi face à, j'allais dire, une société où tout va de plus en plus vite, une société d'hyperconsommation, et évidemment, parfois, le bénévolat, le don de soi, le dévouement va pas de soi, justement.
Alors, on va être un peu plus optimiste et parler du programme de ce festival Compteurs en campagne 2011, hein, qui a déjà commencé, puisqu'il y a eu, il me semble, des apéros comptes, hein, 6 qui ont lieu en même temps. Alors, d'autres spectacles à venir
Oui, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça va nous prendre une heure, je pense, vu que effectivement, il y a une soixantaine de communes, hein, donc sur la région d'Arras, effectivement, il y aura des spectacles prévus à Hac, Neuville-Saint-Va, Agnières-les-Duisans, Avesnes-le-Comte, Oilly-les-Arras, Monchy-au-Bois, voilà, enfin, dans beaucoup, beaucoup, et encore d'autres villages que j'oublie certainement. Comme chaque année, on met l'accent sur la grande diversité des répertoires et des cultures présentes dans le festival. Hein, c'est vraiment une des spécificités de ce festival-là, c'est d'essayer de montrer toute la palette de l'oralité actuellement. Hein. Ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, il y a aussi quelques événementiels particuliers. Par exemple, une nuit du conte qui a lieu chaque année sur une ville différente. Là, pour une fois, on fait une entorse à notre vocation en travaillant en ville. Ça aura lieu à Gravelines le 30 septembre. C'est un événement véritablement régional où on a des gens qui viennent de partout dans la région. Et puis, je citerai aussi en clôture, on va rendre un hommage à Brassens, qui est à sa façon une sorte de conteur, on pourrait dire, puisqu'on va faire deux soirées en clôture où on aura le spectacle de Goun, qui est assez connu dans la région autour de Brassens, et puis une scène ouverte aux conteurs qui pourront raconter autour de l'œuvre de Brassens.
De Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. « Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol.
Dernière partie de ce sujet consacré à Conteurs en campagne, toujours en compagnie de Laila Darwish et Tony Avar. On discute avec eux de la vitalité du conte ces dernières années.
Chaque conteur a sa spécificité. Donc plus il y a de conteurs et de conteuses, plus on a le choix, plus il y a une diversité en fait, dans les contes et dans les manières de raconter et dans le type de spectacle. Il peut y avoir des conteurs très traditionnels, ce que je suis quand même, donc juste raconter avec la voix, etc. Mais sinon, le conte se mélange aussi de plus en plus avec d'autres disciplines. Donc on va ajouter la danse, on va ajouter le chant, on va ajouter la musique, on peut ajouter le mime, on peut ajouter un peu de clown, enfin voilà. Tout ça, c'est en train de se mélanger. Alors après, il y a est-ce que ça reste encore du conte ou est-ce que c'est plus du conte? Là, il y a deux églises qui se battent sans arrêt, mais... Voilà.
Oui, c'est ça. Il y a une diversité, effectivement. En même temps, voilà, il reste des conteurs très traditionnels qui tournent, par exemple, sur des structures comme les nôtres, hein, sur des villages comme les nôtres ou dans des médiathèques. Des conteurs qui sont un peu polyvalents, qui ont des formes un peu plus complexes, on va dire techniquement, avec une mixité au niveau des arts représentés dans le spectacle et qui vont aussi tourner sur des grandes scènes et puis pouvoir s'adapter dans les villages. Certains conteurs ne tournent plus que sur des grandes scènes aussi.
Oui.
Voilà. Donc, il y a effectivement cette grande diversité. Diversité aussi des types de manifestations. Hein. Il y a des manifestations... éclatés comme la nôtre qui sont vraiment sur toute une région ou sur tout un département, des manifestations qui sont sur un lieu unique, certaines qui ont lieu en été avec des randonnées comptées ou des découvertes du patrimoine, voilà, des veillées au coin de la cheminée, voilà, quand il y a encore des cheminées, tout ça, ça voilà. Oui. Donc en fait le conte c'est vraiment diversifié, hein, et moi je trouve que c'est un faux débat de savoir ce qui est ou pas du conte, parce que finalement ce qui compte justement c'est l'émotion qu'on ressent à un spectacle. Donc, si je me pose la question après un spectacle de savoir si ça en était ou pas, c'est que c'est mal barré pour le spectacle, c'est qu'il était vraiment pas terrible. Je veux dire que quand le spectacle me plaît, je m'en fiche de savoir.
Oui, la question se pose pas.
Voilà.
Absolument.
Ouais. Alors, dernière question, le Festival Conteurs en campagne, c'est aussi justement un festival qui provoque des rencontres, non seulement avec le public, mais aussi entre conteurs, hein, puisque je pense que vous faites rencontrer... autour de nouveaux spectacles, des conteurs ?
Alors, pas suffisamment à mon goût, à cause de la forme du festival. C'est-à-dire que comme les conteurs sont en tournée toute la semaine, qu'ils parcourent la région de long en large, hein, de l'Avesnois à la côte d'Opale, quoi, hein, et de Dunkerque à Arras, c'est clair que parfois, ils se rencontrent, ils se croisent au bord d'une route, ou alors on organise quelques événements quand même qui leur permettent de se rencontrer, comme la Nuit des Conteurs, où là, on aura évidemment plusieurs conteurs ensemble, des scènes partagées, on en fait aussi. Mais effectivement, je pense que c'est un des seuls regrets que pourraient avoir les conteurs parfois dans Conteurs en campagne, c'est qu'ils ne se rencontrent pas assez, mais pour une raison, c'est qu'on les fait travailler, suer dur et prendre la route tout le temps, ce qui fait qu'ils n'ont jamais le temps de s'arrêter.
Voilà. Mais par contre, c'est vrai que le grand plaisir, comme hier soir, c'est d'avoir des conteurs qui viennent vous écouter quand ils ont le temps. Voilà, ça c'est super. Ça nous permet un petit peu d'échanger quand même.
Laila Darwish, conteuse d'origine libanaise, qui était de passage notamment à Dieval la semaine dernière. Et puis on a entendu aussi Tony Avar, coordinateur du festival Conteurs en campagne, un festival qui se déroule jusqu'au 30 octobre. Alors autour d'Arras, il y a des dates à Agnès-les-Duisans, Avesnes-le-Comte, Oyly-les-Arras, Monchy-au-Bois, Neuville-Saint-Va, Frémicourt, Biéville-les-Bas-Pommes. Et puis le prochain rendez-vous, c'est ce week-end. C'est Patrick Rochedy qui nous parlera des secrets des herbes, des fleurs et des plantes au travers du spectacle La Fougère du Diable. Rendez-vous à la salle communale de Villers-aux-Bois, c'est du côté de Mont-Saint-Éloi, ce samedi 1er octobre à 20h30. Et à Frémicourt, salle annexe de la mairie, ce dimanche à 17h. Les tarifs 3,50€ ou 6€ en plein. Plus d'informations, www.foyerruraux5962.fr.